L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Manon Albagnac du CARI. Le CARI, c'est le Centre d'Action et de Réalisation Internationale qui est à Viols-le-Fort sur notre territoire dans l'Hérault. Et pourquoi aujourd'hui j'ai donné la parole au CARI? Parce que dans le calendrier de la solidarité internationale, le 17 juin, c'est justement la journée qui a été créée par l'ONU, une journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cela a été fait par l'ONU en 1982. Depuis, le temps a bien passé. Mais toujours l'enjeu international de la désertification, la lutte contre la désertification est de plus en plus essentiel. Puisque d'après la FAO, en 2019, plus de 750 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire et que la pandémie que nous avons traversée pourrait en ajouter 80 à 130 millions. Donc l'enjeu est considérable, le défi aussi, parce qu'il faut produire plus, mais il faut produire mieux. Et compte tenu de toutes les contraintes environnementales, c'est vraiment un défi. Alors le CARI s'y est attelé, parce que dès la création du groupe de travail désertification en 2001, il a pris en main cette chose-là, pour la France tout au moins, au départ. Et puis, vous êtes là et vous êtes chargé justement d'un réseau qui s'appelle le réseau Sahel désertification, le RESAD. Le RESAD, lui, qui a été créé plus tard, puisque c'est en 2010, mais qui travaille en réseau avec des pays africains, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et bien sûr, il y a aussi tout ce qui se passe en France à Viols-le-Fort. Alors expliquez-nous, justement, quelles sont les tâches que ces différents réseaux font dans toute cette lutte pour la désertification.
Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir, de me recevoir au titre du CARI. Donc, vous l'avez dit, cette journée mondiale de la désertification, elle date de 82. C'est déjà un long temps qui est passé, mais sur le terrain, finalement, les enjeux qui sont liés à la désertification, ils ont continué à progresser au cours de ces 40 dernières années. Après les sécheresses des années 80 et 70 au Sahel qui ont marqué, en fait, qui ont commencé à marquer cette reconnaissance internationale, les choses ont continué à avancer. Aujourd'hui, dans les pays du Sahel, c'est des milliers d'hectares de terres qui sont dégradées chaque année à cause de la désertification. Et du coup, l'action de la société civile que représente le CARI et d'autres acteurs, elle est toujours pertinente. Et du coup, le CARI s'est positionné, même avant la création du groupe de travail désertification, il s'est positionné sur cette question de désertification qui était alors reconnue par une convention des Nations Unies sur la question. Et il a cherché à rallier en fait un certain nombre d'acteurs autour de lui, parce que finalement, cette histoire de désertification, au départ, elle n'était pas forcément très connue par tout le monde. Les acteurs qui travaillent au Sahel et dans les zones arides en général faisaient pas forcément le lien entre leurs actions pour la sécurité alimentaire, pour l'agriculture durable et ces enjeux spécifiques liés aux terres des zones arides. Donc c'est pour ça que le CARI a initié effectivement ces réseaux dont vous parliez, le groupe de travail désertification en France et par la suite le réseau Sahel désertification avec des ONG qui sont au Mali, au Niger, au Burkina, pour permettre à tous ces acteurs de s'informer sur les processus qui sont liés à la dégradation des terres dans les zones arides, pour leur permettre de partager aussi leur expérience et de construire des nouvelles expertises, des nouvelles façons d'agir auprès des populations en se mettant ensemble, en discutant, en échangeant sur leurs actions, et pour permettre enfin de construire une voix commune de la société civile apportée au niveau des décideurs nationaux comme internationaux dans le cadre de la Convention des désertification.
Alors évidemment, cette convention, qui date de 1994, a été quand même un point important sur lequel on peut s'appuyer.
Tout à fait, c'est un point important parce que c'est finalement un lieu qui rassemble tous les pays qui ont ratifié cette convention. Donc c'est 196 pays dans le monde, c'est quasiment tous les pays qui l'ont ratifié et qui ont dit « Ensemble, on va lutter contre la désertification, on va chercher les moyens pour lutter contre la désertification ». C'est un lieu qui rassemble aussi d'autres acteurs, des acteurs de la recherche, des institutions internationales, des acteurs de la société civile comme nous. Donc c'est vraiment un lieu où on peut discuter et on peut proposer finalement de nouvelles idées, de nouvelles façons d'agir. Maintenant, on parle aujourd'hui de cette convention désertification, mais elle est beaucoup moins connue du grand public que la convention sur le climat, par exemple, et ou la convention sur la biodiversité, alors que les enjeux finalement liés aux terres et à la dégradation des terres, que ce soit d'ailleurs dans les zones arides ou dans les zones qui sont tempérées où l'humidité est plus importante, ils sont vraiment très liés aux enjeux de biodiversité et de climat. Donc ces trois conventions internationales devraient
être beaucoup plus rapprochées l'une de l'autre. Oui.
Voilà, et les actions qui contribuent à l'une contribuent aux autres aussi.
On peut regretter aussi que dans les objectifs du développement durable, ce ne soit que le 15e point mentionné, et encore vide la terre. Il faut vraiment observer ce qu'il y a dans ce chapitre pour voir comment la désertification est visée.
Tout à fait, et alors que plusieurs études scientifiques et menées par des institutions ont montré aussi que si on répond à cet objectif du développement durable numéro 15 sur la vie terrestre, ça permet de contribuer aux autres objectifs aussi, même si bon, ça ne fait pas tout seul, mais encore une fois, tous ces enjeux sont vraiment
liés.
Interconnectés. Oui.
On peut dire aussi que le chapitre qui est réservé à l'eau, ça a trait également.
Exactement, parce que quand sur le terrain, dans les territoires des zones arides, quand on lutte contre la désertification, finalement, on mène aussi des actions pour améliorer l'infiltration de l'eau dans le sol, pour permettre à la vie du sol de se maintenir et aux cultures qui sont sur ce sol de se développer. Mais ça, c'est aussi ce qui permet finalement de nourrir les nappes phréatiques, d'améliorer l'accès à l'eau plutôt que dans des zones dégradées, avoir des eaux qui ruissellent et qui emmènent tout sur leur passage.
Alors le groupe de travail désertification, le premier en date, il a bien sûr, il fonctionne comme un centre de ressources. Mais aussi, il essaie d'engager la lutte avec des ONG, des scientifiques, des structures privées, des industriels, je pense, et des entreprises peut-être, des collectivités locales. Et puis, il publie les actus et de la désertification, donc les actus et puis des notes aussi chaque mois.
Tout à fait. C'est effectivement un réseau qui est ouvert aux acteurs français qui s'investissent dans les zones arides sur les questions de lutte contre la désertification. On travaille au sein de ce groupe de travail. Il y a également des collectivités locales qui sont impliquées dans des projets en coopération décentralisée au Sahel et dans d'autres pays. Et il fonctionne comme un centre de ressources pour ces acteurs pour qu'ils puissent s'informer. Par exemple, là, on fait un travail actuellement de réfléchir à comment lutter contre la désertification dans des projets de territoire, dans des projets qui ne vont pas s'intéresser juste à un groupe de personnes, aux agriculteurs, par exemple, mais qui vont pouvoir s'intéresser
à
toute la population et aux différentes parties prenantes, aux autorités des territoires, aux commerçants, aux éleveurs, et faire en sorte que le territoire évolue et se transforme en un territoire où les terres sont gérées durablement. Et ce travail, typiquement, il sera mis à la disposition des membres du groupe de travail désertification qui souhaitent améliorer ou enrichir leur façon d'agir en regardant ce que d'autres ont fait, en regardant ce qui marche.
Et être aussi une force de proposition, justement, pour les nouveaux moyens.
Exactement. Et à ce titre, par exemple, on a travaillé l'année dernière, en 2020, avec le ministère des Affaires étrangères français pour le renouvellement des orientations stratégiques de la France en matière de lutte contre la désertification. Et donc c'est un document qui guide finalement l'action à l'international de la France sur cette thématique. Et là,
c'est un changement vraiment positif.
Oui, parce c'est plutôt positif, oui.
On prend en compte enfin la société civile.
Ah, tout à fait. Bon, alors après, c'est vrai qu'avec la France, sur cette question de désertification, c'est une relation qui s'est nouée avec le GTD depuis pas mal d'années. Et on a quand même la chance d'avoir des pouvoirs publics qui sont à l'écoute de ce qu'on a à dire et avec qui on est vraiment dans une collaboration pour guider les projets, les actions de la France.
Alors, maintenant, parlez-nous un peu du réseau Sahel dont vous vous occupez.
Donc, le réseau Sahel désertification, finalement, il est né un peu de la même idée que le groupe de travail désertification, de se dire qu'ensemble, on est plus fort. Et on s'est intéressé, du coup, aux pays du Sahel francophone qui sont concernés par la désertification et qu'on voyait dans les instances internationales comme la Convention désertification, ils étaient là, mais ils avaient du mal à se faire entendre, les organisations de la société civile, les associations et les ONG avaient du mal à finalement peser dans les débats au niveau de cette convention, puisque les échanges sont beaucoup en anglais. Et du coup, on a voulu monter
regrouper
ce réseau
toutes ces forces,
pour regrouper ses forces, pour voir avec elle comment elle contribue à la lutte contre la désertification, encore une fois dans la même idée d'échanger entre les associations, les ONG sur leurs pratiques et de construire une voie commune. Donc c'est un réseau qui aujourd'hui rassemble des ONG et associations qui sont au Burkina, au Mali, au Niger, et puis aussi les membres du groupe de travail désertification en France. Mais on collabore aussi régulièrement avec des acteurs qui sont au Tchad, au Sénégal, en Mauritanie, pour
essayer... J'ai lu même une note sur l'Éthiopie.
Il y a tout à fait.
Beaucoup de choses, bien sûr, qui sont intéressées, qui intéressent ces groupes. Alors, vous avez porté de la musique, de quoi s'agit-il ?
Alors, j'ai apporté un premier morceau, le morceau du groupe Mundivago, qui est un groupe local. Ils sont situés à Octon et qui nous a réalisé un morceau pour faire un peu une musique de sensibilisation en français. Mais le titre étant Tamashek, c'est Tafouk Nakaliet, le titre. Ça veut dire « Nous avons tous le même soleil ». Et c'est un morceau finalement qui parle de solidarité entre la France et les pays du Sahel pour lutter contre la désertification.
Écoutons-le.
J'ai vu des pistes infinies où l'on n'est jamais une charge, et les troupeaux autour du puits où puise un homme sans visage. Le souffle brûlant du désert assèche l'air que je respire. Le vent soulève la poussière, voir et tout ce que je désire. Tu as connu le grand exil, la faim, la soif et puis les peines. Reboisons ton monde fragile, ta planète est aussi la mienne. Nous avons tous le même soleil, ta foudre la caillette. Ta foudre la caillette. Ta foudre la caillette. Chacun rêve de verdure, les yeux vers le ciel sont rivés. Sur la montagne aux écritures, les anciens ont représenté les temps jadis où la nature foisonnait dans le ténéré. Jamais rien ne dure à jamais, il faut lutter main dans la main pour repousser l'ogre affamé, car ton désert sera le bien. Nous avons tous le même soleil, ta foudre la caillette.
Alors je rappelle que je suis avec Manon Albagnac, qui s'occupe pour le CARI du réseau Sahel. Et donc, dans cette dernière année 2020-2021, que s'est-il passé d'important pour la lutte contre la désertification ?
Alors, bah, vous le savez tous, on a été marqué par une année un peu compliquée. Donc, pour nous, ça a été aussi le passage finalement en télétravail et plus de missions sur le terrain. Mais on a réussi à continuer à maintenir des relations avec nos partenaires à travers les moyens numériques. Et on a organisé pas mal de rencontres en ligne sur différents sujets et notamment sur cette histoire de Grande Muraille Verte qui est finalement... une initiative assez ancienne, mais qui est revenue un peu sur le devant de la scène en 2020, fin 2020 et début 2021, à travers notamment l'annonce au début de l'année, lors du One Planet Summit, organisé par la France, d'un accélérateur de plusieurs milliards d'euros pour réaliser cette grande muraille verte au Sahara et au Sahel.
Alors, vous pensez que c'est quelque chose de réalisable, vraiment ?
Alors déjà, il faut dissiper peut-être quelques idées reçues qu'on voit beaucoup à propos de la Grande Muraille Verte. Ce n'est pas une forêt d'arbres qui irait de Dakar à Djibouti, mais une initiative de développement qui a été prise il y a plusieurs décennies par les pays africains pour faire face aux enjeux de désertification, de perte de biodiversité, de changement climatique, tout en permettant un développement des populations rurales qui soit durable, une lutte contre la pauvreté. Donc quand on entend dire que la Grande Muraille Verte sera réalisée quand il y aura une forêt qui s'étend de Dakar à Djibouti, bon, c'est pas ça qui va se passer, c'est une mosaïque de projets sur toute la zone, une mosaïque de projets de développement. Est-ce que c'est réalisable ? Oui, si on se donne les moyens, c'est quelque chose qui est réalisable, je pense. Les techniques pour lutter contre la désertification, restaurer les sols, développer une agriculture durable, tout ce qui est technique d'agroécologie, tout ça, c'est des choses qui sont connues par les ONG, par les scientifiques, par les institutions. Donc maintenant, c'est comment aller main dans la main pour réaliser ces actions de développement sur le terrain. Il y a un enjeu qui est fort de l'engagement des gouvernements des pays du Sahel dans la mise en œuvre de cette initiative, mais aussi dans garantir les conditions dans les pays pour que le développement puisse se faire. Et aujourd'hui, le Sahel est quand même confronté à d'énormes problèmes d'insécurité. Des territoires entiers sont finalement presque sans État, avec pas de gendarmerie, pas de police, pas d'école, pas de services de santé. Et ça, c'est quelque chose sans cette garantie que l'État sera là pour pérenniser tous les investissements qui peuvent être faits par les uns ou par les autres. Ça va être quand même compliqué.
Aussi la part qui est réservée dans l'aide au développement, la part financière qui va être réservée à cette lutte contre la désertification, il faut qu'elle soit assez importante.
Tout à fait, il faut qu'elle soit assez importante, mais il faut aussi qu'elle soit partagée finalement entre les bailleurs internationaux de l'aide et les investisseurs locaux, les États qui collectent quand même des impôts et qui doivent pouvoir utiliser leur budget aussi sur des problématiques de développement et en particulier sur les questions environnementales, agricoles et donc la lutte contre la désertification. Et il faut que cette part de l'aide, elle puisse impulser aussi du développement économique, c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir, en investissant 1 euro, faire en sorte qu'il y ait 10 euros ou 100 euros d'économie qui émerge et pas juste se dire on finance quelque chose et puis une fois que l'argent est consommé,
oui,
il n'y a plus rien.
Il faut associer évidemment toutes les populations locales. Cela ne peut pas se faire sans leur intervention.
Tout à fait, mais l'idéal c'est même de pouvoir construire les interventions avec les populations locales. Et dans ce sens, nous, le CARI, on promeut de travailler avec les autorités locales, avec les responsables élus et techniques des communes sahéliennes, pour qu'eux-mêmes puissent, avec la population, construire des interventions, s'engager dans ces interventions et assurer leur pérennité. Et il y a un rôle essentiel des collectivités locales à jouer là-dessus.
Alors, est-ce que vous auriez un exemple à citer pour ceux qui nous écoutent d'une stratégie bien réussie ?
Alors bon, une stratégie bien réussie, oui, on peut parler du travail qui a été fait dans le Ferlo au Sénégal, de mise en place d'unités pastorales pour organiser finalement les populations agricoles, les éleveurs, autour de la gestion des ressources naturelles, des ressources en pâturage, mais aussi des champs qui sont cultivés.
Et oui, c'est souvent une cause de conflit.
C'est souvent
entre
une
éleveurs
cause,
c'est souvent et cultivateurs.
Tout à fait, c'est souvent une cause de conflit. Et les autorités ont un gros rôle à jouer justement dans la résolution de ces conflits. On peut aussi citer les actions menées par le GRDR, qui est une ONG française. Entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal, ils ont beaucoup travaillé avec des communes au niveau de cette zone transfrontalière pour mieux organiser le passage des troupeaux, l'organisation de qui va sur quelle parcelle, à quel moment, et pour éviter du coup les conflits, tout en permettant finalement à l'agriculteur comme à l'éleveur de pouvoir faire son activité sans problème.
Et puis le problème aussi qui se pose, c'est que dans toutes ces populations rurales, il y a toujours des parties plus faibles, les femmes, les enfants, beaucoup aussi de pauvreté. Donc comment faire pour que tout le monde s'associe, pour que tout le monde en profite?
C'est beaucoup de sensibilisation des différents acteurs à savoir que chacun a son mot à dire et chacun a son rôle à jouer et doit travailler ensemble. Beaucoup de sensibilisation des autorités à prendre en compte les femmes comme les jeunes, comme les hommes. Et c'est vrai que les femmes font un travail agricole très très important. Elles jouent un rôle même plus important si on prend la part du travail qui est réalisé souvent que les hommes, mais elles n'ont pas accès à leurs propres terres la plupart du temps, et elles n'ont pas accès à des moyens comme des microcrédits pour développer leurs petites activités. Donc il y a énormément d'actions pour les accompagner à restaurer, à s'organiser autour d'un petit lopin de terre pour faire du maraîchage, pour que ça leur ramène des revenus et une alimentation qu'elles mettent ensuite au service de leur ménage, mais en tout cas qui soit valorisée comme étant leur travail et leur contribution.
Alors, vous avez en vue de participer aussi au sommet Afrique-France, là, qui va se dérouler à Montpellier au mois d'octobre. Nous allons en reparler, mais nous allons peut-être écouter à nouveau une musique. C'est la même ou c'est une autre?
Alors, cette fois-ci, c'est un morceau de Mariam Kone, Djakélé. Donc, c'est un morceau qui est chanté en Dioula. C'est une langue qui se retrouve en Afrique de l'Ouest et en français, et qui appelle finalement la population du Mali à gérer durablement ses terres.
Alors revenons au projet puisque c'est pour le mois d'octobre. Que va-t-il se passer dans ce sommet Afrique-France? C'est l'occasion pour vous peut-être de faire venir sur place quelques-uns de vos partenaires.
Oui, tout à fait. Alors, le programme exact du sommet n'a pas encore été dévoilé, mais on sait qu'il y aura plusieurs temps de discussion avec des scientifiques, avec des organisations de la société civile, avec des jeunes entrepreneurs africains. C'est finalement un sommet qui ne va pas être un sommet étatique, mais plus un sommet de la société civile et qui se veut s'inscrire un peu dans le renouveau des relations entre les pays du continent africain et la France en matière de développement. En termes de sujets, on sait qu'on va pouvoir parler beaucoup d'agroécologie au cours de ce sommet. C'est une bonne chose parce que finalement, ces techniques d'agroécologie sont vraiment primordiales pour la transformation des agricultures, même dans les zones sèches, en des agricultures performantes, mais aussi durables, qui préservent l'environnement, la biodiversité. On va aussi parler lors de ce sommet de la Grande Muraille Verte, à la suite des annonces qui avaient été faites en début d'année. Donc ça va être l'occasion pour les acteurs de la société civile et donc pour nos partenaires qu'on espère bien faire venir à cette période-là, de donner leur point de vue sur la Grande Muraille Verte, sachant que ça fait quand même pas mal d'années qu'avec nos partenaires, on suit ce qui se passe dans la Grande Muraille Verte et on essaye d'y contribuer. Ce sommet, il y aura également durant ce sommet un espace dédié au grand public avec la présentation, je pense, d'initiatives portées par des jeunes entrepreneurs africains mais aussi par des organisations françaises qui
soutiennent. Là, ce sera peut-être dans le village off.
Certainement, ce sera dans le village off. Donc, j'espère que ce sera un moment pour le grand public pour s'informer et se sensibiliser aux enjeux de développement du continent, mais aussi aux solutions qui sont développées sur le continent, au-delà même de l'aide apportée par les bailleurs internationaux ou par les pays comme la France. Il y a énormément d'innovations qui sont produites par la jeunesse africaine et qui méritent d'être connues, reconnues et voire même soutenues quand elles ont besoin d'être soutenues.
Oui, donc c'est vraiment un grand défi qui est posé, mais peut-être le plus grand défi de notre époque, a dit l'ONU, de lutter contre cette désertification. Et le CARI, pour la France, vraiment, est un acteur important. Oui, à Viol-le-Fort, tout part de Viol-le-Fort.
Oui, donc tout part de Viol-le-Fort, qui est un petit village de la communauté de communes du Pic Saint-Loup. Et qui est le village où le CARI a été fondé et où il est toujours présent au niveau du foyer rural de Viol-le-Fort. Donc c'est très facile de nous trouver et de venir nous y rencontrer. Vous pouvez également trouver toutes les informations sur le CARI sur le site web du CARI, cariassociationtoutattaché.org, et vous pouvez nous contacter par ce biais-là. Et effectivement, c'est une petite structure dans un petit village, mais qui, grâce aux liens qu'il a créés avec ses partenaires de par le monde, arrive à faire des choses, arrive à faire évoluer certaines lignes de décision. Mais voilà, c'est un travail qu'on fait avec l'équipe, mais qu'on fait aussi surtout grâce à l'engagement de nos partenaires à nos côtés.
Et vous avez la parole dans de très grandes conférences internationales.
C'est ça, et on arrive à la fois à être présent dans des grandes conférences internationales et en même temps à faciliter ce qui se passe sur le terrain, à faciliter aussi la participation de représentants d'associations sahéliennes à ces grandes conférences internationales, parce que nous, on a la capacité de mettre en forme finalement les messages, d'aller les porter en anglais, mais on cherche avant tout à valoriser ce qu'ont à dire les gens qui sont sur le terrain, dans ces enceintes, et donc on essaye de les y faire participer le plus possible.
Alors, on voit à quel point l'agriculture, l'agroécologie est importante, et on peut vraiment regretter la vision qu'en a l'Europe en ce moment, et surtout en France, ce qui se passe. Parce que, pour une fois, les aides qui étaient données aux agriculteurs qui se lançaient dans l'agroécologie vont disparaître.
Tout à fait, et c'est vraiment dommage. Après, je pense qu'il y a un gros travail de plaidoyer à faire aussi en France sur cette question, sur déjà se mettre d'accord sur ce qu'on met derrière agroécologie, parce que c'est toute une diversité de pratiques, et même certains agriculteurs français ont leurs pratiques qui sont développées en harmonie avec leur environnement. Ils se disent pas, je suis dans l'étiquette agroécologie. Parfois même, ils en ont marre qu'on mette des étiquettes sur toutes ces choses-là. Et je pense que il y a vraiment une réflexion à faire sur ce qu'on met là-dedans et un soutien vraiment aux transitions agroécologiques, aussi bien au Sahel qu'en France. Et je pense qu'on peut saluer quand même ce qui est fait dans la région Occitanie, qui a le plus important ratio de terres mises en agriculture biologique au niveau de la France, avec quand même des aides de la région pour ces transitions-là. Et je pense que voilà, l'action du coup sur cette question-là, quand au niveau de l'État, au niveau de l'Europe, les choses ne vont pas dans le bon sens, l'action des régions, elle reste importante et elle est importante sur ces questions.
Parole très sage au moment où justement les citoyens sont appelés à aller voter.
Oui, et c'est important effectivement quand on va voter de vraiment voir quels sont les messages portés par les différents candidats sur cette question d'agriculture et d'environnement. C'est crucial. On est affecté par le changement climatique et par la dégradation des terres en France et en Occitanie en particulier. Et on ne peut pas continuer à produire de la même façon alors que les paramètres environnementaux changent.
Merci beaucoup pour cette parole de fin. À bientôt, chers auditeurs.